Le mardi 22 juillet 1625, jour de la Sainte Marie-Madeleine. Peut-être était-ce à cause du jour de la fête de leur sainte patronne, mais les drôlesses n'avaient jamais été aussi nombreuses ce soir-là, devant l'abreuvoir Mâcon, bien qu'il fût près de minuit, et que depuis le XIVe siècle, leur présence ait été interdite en ce lieu après 10 heures du soir, sous peine de 20 sols d'amende. Quelques bourgeois venus s'encanailler étaient également présents, faisant du tapage par des rires et des chants. Ce n'était pas le cas de Charles Girardin, qui restait dans l'ombre d'une porte cochère, afin qu'on ne le vît pas. Il était rongé d'impatience et d'inquiétude, comme à chaque fois. Girardin était vendeur de vin et garde juré de ce corps, c'est-à-dire chargé d'en faire observer les règlements. Il alimentait en tonneaux et barriques la plupart des cabarets de la rue Saint-Jacques, et surtout les collèges. Diable, chaque homme buvant 2 pintes de vin par jour, il fallait en faire entrer des futailles dans Paris. Mais les affaires étaient dures, surtout à cause des impôts, car à Paris, le vin était la marchandise la plus taxée. L'imagination des surintendants des finances à ce sujet se montrait sans limite, et le vin était soumis à toutes sortes de contributions. Ainsi, des droits de vente étaient-ils prélevés quand le grossiste vendait au tavernier, et des droits d'entrée quand les barriques pénétrer dans la capitale. Les premiers, le droit de gros, représentaient le 20e, soit 1 sol par livre. Il s'ajoutait donc au 8e propre à la vente en cabaret, qui atteignait 7 livres par muit. Quant aux taxes d'entrée, elles étaient nombreuses, variables selon le mode de transport, et pouvaient atteindre jusqu'à 17 livres par muit, sans compter le gros d'entrée assis sur les vins que les marchands faisaient venir pour la revente. Sachant qu'un muit de vin de 300 pintes de Paris se vendait 65 livres, grande était pour les marchands de vin la tentation de frauder. Mais ce n'était pas si facile, car les contrôles étaient nombreux et tatillons. Plusieurs offices s'en chargeaient, comme les commissaires au gros ou les commissaires aux caves, ces derniers étant chargés de vérification, et en particulier de la visite des celliers des marchands. Sont comptées la police du Châtelet et celle du bureau de ville pour les voituriers sur eau. Pour survivre et s'enrichir quand même un peu, corruption et tromperie étaient donc nécessaires. Chaque marchand de vin utilisait sa méthode. La plus courante, mais non dénuée de risques, était de graisser la patte des contrôleurs. Une autre consistait à s'entendre avec un noble, un bourgeois, ou une communauté religieuse, des catégories exemptées de droits à payer quand il s'agissait du vin de leur vigne réservé à leur usage personnel. Cependant, il ne pouvait s'agir que de faibles quantités. Girardin pratiquait une autre recette. Il faisait venir de temps en temps une barque, contenant 4 à 6 futailles d'un demi-muit, qui accostait la nuit au-delà du port Saint-Bernard, sur une portion de la rive toujours encombrée de bois. 2 ou 3 gueux qu'il avait engagés, et à qui il confiait sa charrette et ses mules, récupérait sa marchandise et la lui portait à l'abreuvoir Mâcon. Là, avec le garçon qui lui servait d'apprenti, il transportait les futailles dans un cellier que personne ne connaissait, à l'abri donc des contrôleurs. Évidemment, il restait la possibilité que ces miséreux le volent, mais en réalité ce risque était des plus réduits, car Maître Girardin ne payait ses besogneux qu'à la livraison, et s'ils avaient imaginé ne pas venir, ils n'auraient su que faire de leurs marchandises. C'était donc une entreprise où Girardin était toujours gagnant. Au pire, les gueux seraient pris et condamnés au pilori, mais ne le connaissant pas, ils ne pouvaient le dénoncer. Dans une telle malaventure, le marchand perdrait seulement sa charrette et ses mules. Un dommage important, certes, mais un négociant ne doit-il pas prendre des risques ?